Bonjour partisans et partisanes de baseball, mon nom est Dave Rouleau d'Édition Baseball, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on parle avec Alain Husserau de RDS, qui est un passionné de chiffres, qui est un passionné de sport, mais surtout de baseball, et bien sûr, ça va être le focus de notre entrevue. Donc, sans plus tarder, on s'en va parler à Alain de différentes choses, dont sa présence à la prochaine convention de Sabre à New York.
Play ball!
Mesdames et messieurs, nous sommes avec Alain Husserau. Et puis, Alain travaille bien sûr à RDS. Ce qui me fascine de lui, c'est que non seulement on va se rejoindre sur le côté statistique du baseball, mais aussi qu'il est vraiment un fan de plusieurs sports et qu'il est capable de les analyser. Alain, comment ça va?
Ça va très, très bien, Dave.
Oui, Alain, ça fait un petit bout qu'on veut se parler. Puis, évidemment, on va mettre l'accent aujourd'hui sur le baseball. Ma première question pour toi, tu as une formation en mathématiques, tu as aussi une formation en journalisme. Concernant le baseball, qu'est-ce qui t'a attiré, dans le fond, vers le baseball? Est-ce que c'est vraiment le jeu et ses stratégies ou l'amour des chiffres pour toi, dans le fond, t'a vraiment attiré vers ça?
Ben, le mélange des deux, les chiffres, bon, tu l'as mentionné, ma formation est en mathématiques, donc j'ai toujours aimé jouer avec les chiffres. J'ose même pas utiliser le terme travailler parce que c'est vraiment jouer pour moi.
Nice.
Puis j'ai tout le temps aimé le sport, donc le baseball combinait pas mal les deux là quand j'étais jeune. Mais comme tu disais, j'aime le sport en général. Ce que je te dis là sur le baseball, tu pourrais s'appliquer au hockey aussi. Les chiffres au hockey, j'en ai décortiqué pendant toute ma jeunesse. Mais c'est ça qui m'a attiré d'abord vers le baseball, puis par la suite, moi, je me suis intéressé à d'autres aspects de ce sport. Là, que ce soit sur le plan stratégique et plus tard, autant l'aspect social, autant l'aspect historique, là, économique même, de ce sport et des sports en général. Donc, je te dirais que j'ai élargi pas mal ma palette d'intérêts, mais en demeurant dans le sport. Là.
Est-ce que tu pourrais dire que le baseball, de tous les sports que tu peux analyser ou suivre, c'est celui-là que tu préfères le plus? Est-ce que tu pourrais dire ça?
Écoute, c'est difficile de dire non parce que je suis, faut bien le dire, là, je suis identifié là baseball, là, j'ai le mot baseball écrit dans le front, quand je parle aux gens. De dire que c'est le sport, j'ai un petit peu de difficulté avec ça, même si j'aime beaucoup le baseball, j'aime beaucoup le hockey aussi, ça fait partie de nos mœurs, c'est pas différent pour moi que ce l'est pour d'autres qui suivent le sport au Québec. C'est presque incontournable, mais en raison du fait que j'ai écrit un livre sur les expos, en raison du fait que je suis maintenant le descripteur attitré au match de baseball, je te dirais que, bon, je suis identifié à ça, puis je renie pas mon intérêt, qui est quand même assez grand pour le baseball, mais de là à dire que je restreins ma passion à ce sport-là, je le fais pour des raisons professionnelles, évidemment, et c'est pas un travail pour moi, mais je te dirais que les autres sports, comme par exemple, bon, je suis attiré aussi à la description du curling, un sport que j'ai découvert et que j'apprécie de plus en plus. Là.
Mais c'est ça, mais moi, ça me fascine parce que le matin, bon, moi, j'ai plusieurs sources, évidemment, à consulter pour savoir tout sur le baseball mineur, les statistiques, le baseball majeur, la LBJEQ. Toi, tu as plusieurs sports. À quoi ressemble ton matin quand tu te lèves? As-tu un site? Est-ce que c'est vraiment RDS qui devient ta source pour toi? Comment ça se passe un peu?
Ça se passe de différentes façons et il n'y a pas une seule façon de se préparer. Il y a autant de façons de pratiquer ce métier-là qu'il y a de personnes qui le pratiquent.
Mm-hmm.
C'est pas linéaire, là. C'est bon. Moi, ben, évidemment, comme je suis attitré à suivre le baseball a des matchs à tous les jours. Et en ce qui me concerne, moi, je regarde les box scores de chacun des matchs. Je regarde la façon dont le résultat, évidemment, je regarde l'alignement, je regarde s'il y a des noms que je connais pas. C'est la chose sur laquelle je m'attarde le plus. Savoir, bon, OK, c'est qui ça? C'est quoi son passé? Qui l'a embauché? Comment il était acquis? Etc., etc. Je regarde les changements dans la formation des 25 joueurs de chaque équipe. Il y a des changements tous les jours, surtout cette année avec l'avènement de la liste de blessés qui est passée de 15 à 10 jours.
Oui.
Donc, ça donne une plus grande flexibilité aux équipes là, pour faire des changements.
Oui.
Ça fait que il y a beaucoup de changements à tous les jours. Fait que je me tiens au courant et dépendant s'il y a des matchs ou non, que bon, ça peut être long ou non, comme les mardis et vendredis sont les journées où qui demandent le moins. Pourquoi? Parce que les lundis et le jeudi, ce sont les journées où il y a le moins de matchs. Fait que Donc, mais quand il y a des matchs, là, en plus de ça, ben là, je dois préparer l'avant-match avec les deux principaux compères, le réalisateur Jean-François Guilbeault et moi, celui qui est l'analyste Mark Griffin. Donc, c'est avec ces gars-là, on prépare l'avant-match de ce qu'on va faire le soir même. Là. C'est, donc, ça ressemble à ça, mais je suis quelqu'un qui lit beaucoup et qui lit pas seulement le sport. Là. Moi, je lis régulièrement ce qui se passe dans les principaux sites d'information et pour savoir un peu ce qui se passe, non seulement dans le monde du sport, mais dans le monde en général. Là.
OK. Évidemment, tu sais, RDS s'adresse à un public qui est très diversifié. Présentement, on voit dans le monde du baseball un mouvement vers les stats avancées et ce n'est plus seulement d'essayer de prouver qu'est-ce que ça peut faire. Ça a été prouvé qu'est-ce que ça peut faire et là, ça devient un petit peu plus compliqué. Il y a le pitch framing, parce que j'ai aucun terme français malheureusement pour ça. Il y a évidemment les ground balls, les launch angles, tu sais, la frappe et l'angle que ça va être, la puissance. Comment vous faites pour, dans le fond, inclure ça dans une diffusion et que ça devienne pas trop chargé pour une personne qui, honnêtement, veut juste voir une balle frappée puis un circuit une fois de temps en temps?
Ben écoute, c'est une bonne question parce que de tenter de vulgariser les nouvelles tendances avec un vocabulaire qui est pas trop compliqué, c'est justement là où faut que tu trouves un équilibre. La partie, elle se joue sur le terrain. Et puis je dois rendre hommage à Mark Griffin qui a joué, qui a fait partie de la génération avant les stats avancées et qui est très très ouvert et qui comprend l'importance de ces statistiques-là et qui les utilise également. Il y a plus un match de baseball aujourd'hui où un frappeur va arriver sans qu'on parle de son OPS parce que les gens commencent à comprendre maintenant que c'est une statistique qui veut dire beaucoup. C'est la même chose pour le fameux whip des lanceurs, même si on l'utilise moins que le fameux OPS. Là. Donc, c'est de trouver l'équilibre. Mais moi, en fin de semaine, j'ai écouté un match à la radio et bon, et un des descripteurs parlait de l'équation pythagorienne.
Oh my
en
God.
Fonction des points pour et points contre, et celui qui était son analyste a répondu « Quoi? » Bon, ça se faisait en anglais. On est peut-être allé un peu trop loin. Ça aurait été beaucoup plus simple, par exemple, et c'est là que vient l'importance de vulgariser, de dire « Bon, ben avec un tel différentiel, l'affiche devrait être de... »
Exact.
On aurait parlé exactement de la même chose. T'sais, donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas noyer la description d'un match, et ça, peu importe le sport. Tu l'as dit, c'est dans tous les sports maintenant, la tendance des statistiques avancées, ça inclut le hockey, quoi qu'en pensent certains puristes. Et c'est de pas noyer le divertissement avec une pluie de chiffres là, qui va tout simplement rendre la description, autant pour moi que pour le spectateur, là, beaucoup trop technique. Là.
Ben, en fait, c'est très bien dit parce que je lisais un livre qui s'appelle Big Data par Travis Sawchik, qui est maintenant avec Fangraphs, en fait. Et puis, souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y avait les analystes, évidemment, qui sont dans les équipes présentement, donc les départements de statistiques avancées, d'analyse avancée, en fait. Et puis, l'analyse se fait, mais ne se rend pas aux joueurs. Il y a une manière de le vulgariser. Et dans le livre, c'est Clint Hurdle qui le fait avec les Pirates de Pittsburgh. Et est-ce que tu crois que un média a une responsabilité à ce niveau-là? Parce que, tout comme un gérant, s'il ne communique pas bien ces statistiques-là pour qu'il puisse avoir des déplacements défensif, il y a aussi d'après moi une responsabilité du média de le faire et de dire oh, regardez, on veut pas vous faire peur là, mais ça devrait être important que vous sachiez ça.
Ben, je pense qu'on le fait, moi et Marc. Moi, en raison de ma formation, j'ai peut-être une compréhension plus facile de ces nouvelles statistiques. Ça fait plusieurs années que je lis Bill James, puis ça fait longtemps que au baseball, je sais que le but sur balle pour les frappeurs, c'est une statistique dont on n'a pas tenu compte pendant beaucoup trop longtemps. Là.
Ben oui.
Fait juste regarder les amateurs de camp de baseball, vous regardez derrière une carte et vous jamais vous avez vu des buts sur balle dans les années 70-80 derrière dans les statistiques de camp de baseball. Là. Ça n'existait pas. Et je peux dire, c'était le reflet de ce qui se passait, de la façon dont on voyait les choses à travers le baseball majeur. Il y a une anecdote que j'ai déjà racontée en oncle, je vais te la répéter pour les besoins de la cause, c'est Bob Bailey en négociation. Bob Bailey, qui était un frappeur qui a été sous-estimé pendant toute sa carrière, et qui recevait un grand nombre de buts sur balle, et quand il a amené ça en négociation, Jim Fanning lui a répondu, qui se soucie des buts sur balle? En anglais, who cares about walks?
Exact.
Bon, tu vois, là maintenant, on a une meilleure compréhension de ce que ça prend pour gagner. Et à ce niveau-là, est-ce qu'il y a des mesures de responsabilité? Les mesures de responsabilité envers ce qu'ils doivent aux spectateurs, pas envers les équipes. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre de ce côté-là.
Absolument.
Mais on essaie, là, justement, d'amener ça comme hier. C'en est un bel exemple. Adam Jones, qui était réputé pour être le voltigeur qui jouait le plus rapproché, ben même lui doit se plier à la façon de faire optimal selon ce que les spécialistes en statistiques avancées découvrent.
Très vrai, absolument. Puis justement, ben regarde, on parle de sabermétrique ou ben de comment on appelle ça en français, sabermétrie?
Ben moi j'appelle ça, si tu veux, l'étude de statistiques sportives, là. Okay. Mais évidemment, en raison du fait que ça vient de Saber, la Society for American Baseball Research, dont je suis membre, là,
oui.
On a baptisé là, surtout en baseball, les sabermétriques.
Ben justement, ça fait une vingtaine d'années que tu es membre de ça. Moi, ça fait, je crois, 7 ou 8 ans que je suis membre. Donc évidemment, chaque année, j'ai mes baseball research. J'adore lire sur le baseball. Est-ce que as-tu été, dans le fond, initié avec les baseball abstracts de Bill James dans le temps? As-tu réussi à mettre la main sur une copie de ça?
Ben, les baseball abstracts sont, bon, pour ceux qui sont membres, sont maintenant disponibles. Je sais pas si tu as vu le site de Saber, là.
Oui, absolument.
Ils sont disponibles et tu peux même les digitaliser gratuitement une fois que tu es membre. Mm-hmm. Faut bien le préciser. Il y a des choses là-dedans qui étaient à l'avant-garde. Il était considéré comme un hurluberlu. Puis je peux faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du hockey. Il y a beaucoup de gens associés au hockey aujourd'hui qui ont un dédain pour les statistiques avancées. Et, écoute, c'est la même réaction qu'on avait quand Moneyball était arrivé.
Mm-hmm.
Donc, il faut avoir une ouverture. Et je te dis pas que c'est tout. Et même les fameux Aces d'Oakland, qui ont été les précurseurs, médiatiquement parlant, de cette façon de faire, même Billy Bean va vous le dire, ça prend quelqu'un sur place pour aller voir ce que le joueur a comme qualité qui dépasse les chiffres. Là.
Mm-hmm. Exactement. Il y a un mariage qui peut se faire entre la vieille école et la nouvelle école. Dans le fond, les statistiques ne mentent pas, mais ne disent pas tout. C'est tout le temps la manière que j'essaie un petit peu de l'illustrer, et je crois pas avoir tort nécessairement. Mais pour revenir à Saber, moi, ce qui me fascine, puis vraiment par de ça, c'est que tu as gagné plusieurs concours de jeux questionnaires, donc durant les années, je pense c'est 3 ou 4, où des jeux questionnaires sur autant les stats que l'histoire, puis tu as gagné ça. Peux-tu me parler un petit peu comment ça se passe dans une convention, ces jeux-là?
Ouais. Écoute, c'est arrivé 3 fois. Il y a un petit peu de chance là-dedans. Faut que les questions arrivent à ton niveau, là. Bon.
Ouais.
Faut bien le mentionner, là. Parce que tous les gens qui participent à ce genre de concours-là, là, ce sont des gens qui connaissent leur baseball du bout des doigts, là. La façon que ça se passe, écoute, je peux te dire, il y a beaucoup de gens qui participent à ces concours-là. On le fait pour le plaisir de la chose. On le fait pas dans un but compétitif. Moi, j'y participe de moins en moins. Puis la raison, c'est pas parce que je trouve pas ça plaisant. C'est tout simplement que quand je vais là, au fil des ans, moi, ça fait 10 ans que j'assiste au congrès annuel. Et tu développes des amitiés, tu développes tu rencontres des gens avec qui tu as des affinités et avec qui tu veux passer un peu plus de temps. Donc, quand ça se passe, ben, je te dirais, habituellement, je vais aller souper avec des gens que j'ai pas vus depuis 1 an. Tu comprends ce que je veux dire sur le plan social?
Oh, oui, absolument.
Donc, il y a un aspect là qui dépasse largement le côté de crack de baseball qui se rencontre là, pour aller parler de chiffres. Là. Ça va au-delà de ça, là.
Puis, ce qui est encore plus cool cette année, c'est que dans les prochains mois, quand tu vas aller à la prochaine convention, c'est à New York, si je me trompe pas, quand j'ai reçu...
C'est à New York à la fin juin.
C'est ça, j'ai reçu le email, fait que je regarde les personnes qui allaient être présentes là-bas pour présenter des conventions, des présentations. Puis là, je vois ton nom, fait que, dans le fond, tu vas être une personne qui va être mise à l'avant-plan, en fait, là-bas. Comment ça s'est passé un petit peu l'approche?
La première des choses, celui qui est à la tête du comité média, et je te parlais de gens avec qui tu as des affinités, puis que tu rencontres avec qui ça clique, ben Chuck Hildebrand, c'en est un. C'est un gars de Chicago que j'ai même pu voir pendant la dernière série mondiale, parce que lui, il vient de Chicago, il a des abonnements annuels avec les Cubs. Donc, c'est le genre de gars avec qui je me suis trouvé des affinités là, très rapidement. Donc, quand Chuck m'a demandé, pour le panel média, si ça me tentait d'être là, ben regarde, ça n'a pas pris une demi-seconde avant que j'accepte. Là. Donc, c'est ça que je te dis, c'est une communauté à partir de laquelle tu peux rencontrer des gens avec qui tu as des affinités. C'est pas tout le monde, comme n'importe quelle organisation. Mais il y en a avec qui tu es plus proche que d'autres. Puis dans ce cas-là, ben c'est ce qui est arrivé. Puis regarde, je m'en vais là avec l'esprit bien ouvert, puis avec la possibilité d'avoir du plaisir avec des gens qui pratiquent pratiquement le même métier que moi, là.
Non seulement ça, mais ça me tente aussi d'y aller, justement, non seulement pour te voir, mais tu sais, de voir, ça serait ma première convention que j'irais, étant à New York.
Tu y seras?
Ben, j'aimerais vraiment ça, je te mentirais pas, c'est que mon emploi du temps présentement commence à changer un petit peu, donc on va voir de ce côté-là, mais effectivement, j'aimerais ça y aller, puis je te félicite en passant, tu sais, je veux dire, c'est pas rien non plus d'être présenté là-bas et d'avoir une entrevue de soi-même pour un petit peu parler, évidemment, de ton rôle dans un média, j'imagine, français aussi, et tout ça, fait que félicitations de la part de moi et des auditeurs. J'avais deux questions encore pour toi. Tu as écrit un livre qui s'appelle « L'époque glorieuse des expos » qui est sorti en 2009. C'est quoi d'écrire un livre sur justement une équipe qui a beaucoup été racontée, une histoire qui a beaucoup été racontée? Et surtout, moi, ce qui me fascine, c'est d'écrire quelque chose que tu ne peux pas changer après ça. Donc, tu sais, peut-être nous parler un petit peu de ton processus d'écriture.
Oh mon Dieu, c'est parti de loin, cette histoire-là. C'était la suggestion d'un de mes amis que ça a commencé, qui voulait me changer les idées alors que je traversais une période qui n'était pas jojo. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, sachant que, bon, j'avais un intérêt et une passion pour le baseball. Et je me suis lancé là-dedans à corps perdu. Et quatre ans plus tard, ben ça s'est sorti comme un livre et l'éditeur a été trouvé à la suite d'une rencontre avec un collègue, Jean-François Chabot, pas le nommé, qui m'a suggéré de voir son éditeur. Et c'est mon intéressé. Donc, à partir de ce moment-là, ben, on a travaillé ensemble. Ça s'est fait très rapidement. Moi, j'avais travaillé, je ne suggérais pas, mais quand j'ai commencé à travailler là-dessus, j'avais zéro éditeur. Quand je l'ai rencontré, j'avais déjà un manuscrit de prêt. Ça te donne une idée de la façon dont ça s'est fait. Le processus de recherche, ça a été fascinant. Ça a été beaucoup de temps. Tu le fais pas pour l'argent. Ça, je le répète, là, et je vais répéter. Tu fais vraiment pas ça pour l'argent. Tu le fais pour la passion.
Exact.
J'ai parlé à beaucoup de gens, j'ai glané beaucoup de documents, puis ça a donné ce livre-là que j'aurais aimé probablement refaire. Quand je le regarde aujourd'hui, je suis très fier du contenu. J'aurais peut-être aimé un peu styliser l'écriture. Mais regarde, c'est facile à dire une fois que tu l'as fini, et tous ceux qui vont écrire un livre du genre vont vous dire « Ah, j'aurais aimé faire telle affaire. » Et c'est pas différent avec moi. Ceci dit, je suis très fier du contenu de ce livre-là. Je pense qu'il a une belle valeur historique par rapport à ce qui a été, d'après moi, la plus belle période de l'histoire des expos.
Absolument. Puis c'est ça qui me fascinait, c'est que moi, je suis plus sur un site, évidemment. À 36 ans, j'ai connu aussi l'époque où il n'y avait pas Internet, mais j'ai jamais écrit. Fait que, tu sais, quand je veux changer une de mes publications, tu payes sur modifier texte, tu changes tes trucs. Mais quand tu fais un livre, ça s'en va à la postérité. Tu peux faire une grosse erreur et faire rire de toi, comme justement vouloir changer des affaires ou dire « Il me semble que j'aimerais ça que le monde me connaisse avec mon nouveau talent, mon nouveau style d'écriture. » Fait que ça m'intéressait un petit peu ce côté-là du livre. Ma dernière question pour toi, puis je ferais pas ma job, je te demandais pas, que penses-tu du retour des expos de Montréal? Je sais pas si t'es dans le secret des dieux, mais
non, pas du tout.
Quand penses-tu que ça pourrait se faire? Et au pire, même ta vision des choses présentement, de qu'est-ce qu'on a besoin et où le baseball s'en va?
Il y a plusieurs choses dans cette... Il y a beaucoup de défis. Il y a une volonté à l'intérieur de la ville de Montréal, ça c'est sans équivoque. Le maire Coderre travaille très, très fort pour que ça se fasse. Il y a beaucoup de gens en moyen qui sont impliqués, et ça c'est une très, très bonne nouvelle. Ils ont fait leur devoir, visiblement. Donc, à partir de ce moment-là, faut savoir que les cartes appartiennent au baseball majeur, qui semble avoir une ouverture envers Montréal. Ça, c'est... Mais comme je te dis, je suis pas dans le secret des dieux. Les gens font leur travail. J'ai toujours pensé que ce projet-là pourrait faire partie d'un projet beaucoup plus vaste, lequel je l'ignore. En ce qui concerne les défis du baseball majeur, puis c'est pas juste Montréal, c'est évidemment de faire renaître l'intérêt du baseball. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que à la base, Baseball Québec a fait un travail tout à fait admirable depuis une dizaine d'années.
Oh, okay, oui.
On est passé là au fil des ans de 14 000 inscriptions à 35 000 cette année. C'est pas rien là.
Non, non, non.
D'augmentation là de, écoute, de, on est passé de, d'augmentation de quoi 250% dans l'espace de moins de 10 ans. Mm-hmm. C'est phénoménal là, comme progression. Et tu dis à ce moment-là, ben si les jeunes s'intéressent au baseball, recommencent à y prendre goût, ben peut-être que notre clientèle éventuellement, on va pouvoir la renouveler. Donc, ce sont tous des aspects qui me laissent croire que peut-être finalement, ben il y a quelque chose qui se passe et que on va revoir une équipe. Et si tu me demandes de te donner une date, moi, c'est plus un souhait que d'autres choses. J'espère être encore être capable de décrire au moment où où une équipe reviendra à Montréal. Est-ce que les chances sont bonnes? Je pense que oui, mais qu'il faut falloir que les astres soient bien alignés, puis il y a des gens qui travaillent dans ce sens-là. Là.
Absolument, puis j'aime beaucoup ton commentaire sur Baseball Québec, aussi le côté amateur. Sans le côté amateur, il n'y a pas d'intérêt tout simplement pour le côté professionnel. Alors, merci beaucoup de l'avoir dit. Alain, merci encore beaucoup d'avoir pris le temps. Ça fait un petit bout qu'on se parlait de cette entrevue-là. Merci d'avoir pris le temps, puis merci aussi de cette passion, justement, que tu essaies d'implanter dans les amateurs québécois avec RDS. Malheureusement, j'ai pas souvent la chance de t'entendre parce que j'ai pas le câble, mais tout le monde trippe sur ton travail avec toi puis Marc. Vous avez une super belle chimie. Alors, continue ton excellent travail.
Ouais, ben écoute, je veux rendre quand même le crédit à qui il revient. Mark Griffin fait un excellent travail. Oui. Il fait ses devoirs. C'est quelqu'un qui est généreux également. Ceux qui ont travaillé avec lui, que ce soit au niveau des médias ou au niveau du baseball, vont vous le confirmer. Là. C'est un charme de travailler avec Mark et qu'on puisse partager tous deux notre passion commune. Là. C'est un privilège. Là.
Excellent. Alors, passe une excellente journée, Alain.
Merci, Dave.
Afin d'en savoir encore plus sur le baseball amateur et professionnel, on vous invite à visiter quotidiennement editionbaseball.ca où nos chroniqueurs vous relatent les dernières nouvelles et analyses dans le monde du baseball.